Bon après-midi à tous pour cette rencontre avec le monsieur de Seul mais ensemble, Fabien Wellmann, scénariste, deux fois lauréat du prix Utopia pour Les lendemains sans nuage et Les derniers jours d'un immortel.
Mais oui.
Tu commences comme un tel habitué, une sacrée vedette ici.
Grosse star des Utopias.
Une grosse star. Bon. On se connaît depuis longtemps, donc il y aura peut-être un petit peu d'humour dans nos échanges.
Oui.
Bon, le titre de la conférence est Seul mais ensemble. Bon, comme beaucoup le savent, Seul est une série créée par Fabien Wellmann et Bruno Gazzotti, qui est une série, comment dire, on ne sait pas, post-quoi finalement.
Au début, ça ressemble à du post-apocalyptique, et puis ça devient du post-vitam, je ne sais pas comment l'inventer, sans dévoiler non plus trop d'informations à ceux qui ne connaîtraient pas la série, mais ça devient, c'est une forme de fantastique quand même, et un mélange entre science-fiction et fantastique.
Ouais, on est quand même dans un grand thème de science-fiction finalement, l'histoire de gens qui se retrouvent à un moment seuls, mais au pluriel, parce qu'ils sont un groupe de...
d'adolescents,
disons des gamins.
Des gamins qui se retrouvent tout seuls, ils se réveillent un matin, ils sont seuls sur Terre, tout a disparu. Il va falloir commencer à vivre et à comprendre comment la vie va se réorganiser. Alors après, ces gamins ont quand même une typologie, tu les as, ils ne sont pas été choisis par hasard. C'était très étudié. Tu as fait un casting d'enfer ?
Oui, on a fait venir des gamins avec Gazzotti, on a fait des castings. Non, il y a une vraie discussion avec Bruno là-dessus, on va peut-être l'aborder, on verra à quel moment.
Voilà, on va vous donner... du matériel pour mettre des images, ça va être intéressant.
Oui, si
bon, en attendant, qu'est-ce qui était à l'origine de cette idée?
Alors, c'est venu d'abord d'un vieux projet que je... Enfin, en fait, je pense que ça rejoint tous les fantasmes que j'avais enfant, à savoir, je pense qu'il y a deux choses qui me frappaient quand j'étais gamin, c'est que je voulais à la fois être complètement tranquille et que mes parents me lâchent la grappe et que je sois mais vraiment complètement tout seul. Et je crois qu'en même temps, c'était ma pire phobie possible, c'est-à-dire que l'idée que mes parents disparaissent, ça aurait été la pire chose qui m'arrive. Donc j'étais dans une espèce de contradiction qui est assez typique des gamins, qui veulent à la fois être indépendants et à la fois qui ont besoin de leurs parents. Donc ce mélange-là, je cherchais une manière de l'exprimer par un récit, et c'est passé par pas mal de réflexions assez classiques, d'abord inspirées d'un roman qui a été fondateur pour moi, qui était Sa Majesté des Mouches, de Golding, où on voit des enfants qui doivent se débrouiller sur une île... c'est que des garçons, dans le cas de Sa Majesté des Mouches, c'est un pensionnat de garçons pendant la guerre, leur bateau s'échoue sur l'île, il n'y a aucun adulte qui survit, et eux sont les seuls à devoir devenir des sortes de Robinson, quoi. Donc le début ressemble à une Robinsonade classique, entre guillemets, des enfants doivent se débrouiller sur une île, moi je trouvais ça génial, sauf que Golding a le talent de montrer que ça va très vite dégénérer, et qu'en fait les enfants finissent par s'entretuer assez rapidement dans des soubresauts assez terrifiants, il y a très vite des rapports de force qui apparaissent dans le groupe. Et moi, quand j'ai lu ça enfant, je ne pense pas que Golding l'avait écrit pour les enfants, mais je l'ai lu enfant, je me suis dit, ce type a raison. Ce type me parle de l'enfance, il n'est pas en train de me parler de oui, où tout est merveilleux, c'est super, on est le club des cinq. À un moment donné, les gamins se mettent sur la gueule, ils se tuent, quoi. Et je pressentais, pour un certain nombre de raisons, que la réalité était plus proche de ça, et que dans une... Ceux qui ont eu l'occasion d'avoir vu le documentaire de Pierre Simon qui s'appelle « Récréation », montre ce que c'est qu'une cour de récré, elle a filmé pendant des heures une cour de récré et on voit qu'il y a des rapports de force extrêmement violents entre les enfants qui sont juste canalisés par les profs qui sont à côté. Donc moi ce qui m'intéressait c'était parler de ça, c'est de parler de la violence qu'il peut y avoir dans les échanges qu'il y a même entre des enfants et de le penser en m'adressant à des enfants. Ce qui est le paradoxe de la série Seul, c'est que bon, on a un lectorat qui est finalement tout public, qui est aussi adolescent et adulte, mais au début, et ça même mon éditeur n'en était pas convaincu, c'était... vraiment pensé pour les enfants. Le lectorat de base de Seul, pour moi, c'est essentiellement des enfants de 10-14 ans. Mais ce qui surprend les parents de ces enfants, c'est que ça soit violent. Ils disent « Oui, mais c'est vraiment cette image que vous voulez donner de l'enfance, etc. » Mais je dis « C'est pas une image que je veux donner. Je veux juste renvoyer aux gamins une expérience qu'ils connaissent. » Comme moi, j'avais l'impression que Golding me parlait en tant qu'individu, en tant qu'enfant, en me parlant d'une certaine violence entre les échanges. Donc c'est une des envies, elle était là. C'était un ton qui soit entre la peur et l'excitation.
Et quand vous avez présenté cette série à Bruno Gazzotti, vous avez fait la tournée des éditeurs, vous êtes allé directement chez Dupuis, et Dupuis aussi, ça l'intéresse, c'est que ça paraît dans un journal hebdomadaire, Spirou, qui est lu quand même par à peu près 100 000 foyers en Europe ou en France.
C'était bien pratique, mais on ne l'a pas fait que dans ce sens-là. En fait, on a commencé déjà par réfléchir avec... ça sera sur Seul.
Bon, je te laisse gérer, tu peux...
Ouais, je commence. On verra ce qu'on aura besoin.
Voilà, là on vous présente le groupe d'enfants qui est finalement le héros de la série.
Alors ça pose justement une question de qui est un héros, est-ce que c'est un groupe, et on en revient au titre de l'entretien, c'est que... Alors il y a plusieurs choses qui étaient importantes dès le début quand on en a discuté avec Bruno, c'est que de fait, on voulait que ce soit les aventures d'un groupe, il fallait quand même qu'il y ait une forme de leader, il fallait quand même qu'il y ait une sorte de chef naturel, et la question se posait de qui est-ce qu'on va choisir comme chef naturel, parce qu'on avait l'impression que c'était important qu'il y ait une identification un peu plus forte, même si fondamentalement la plupart des albums ne font que rappeler qu'ils ne s'en sortent les uns les autres que parce qu'ils sont ensemble. Donc effectivement le S à la fin de Seul est assez important, c'est pour rappeler, oui ils sont seuls, mais ils ne sont pas tant que ça, par définition. D'ailleurs, c'est tout le paradoxe de la série, quand les enfants lisent, ils comprennent d'ailleurs assez bien, c'est, en fait, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul à vivre ce que vous vivez, même dans votre vie de tous les jours, dans les rapports que vous avez, les conflits que vous pouvez avoir, vous pouvez le vivre en commun. Et la question s'est vachement posée, en particulier pour, on va dire, le type de chacun des personnages. Et on les avait au début établis de manière, je le reconnais, un peu cliché. D'ailleurs, au tout début, c'est sans doute un des défauts du premier album, c'est que les personnages sont... Dans le meilleur des cas, on va dire que c'est des archétypes. Dans le pire, on va dire que c'est des clichés ambulants. Mais on avait vraiment l'envie d'un récit très classique. Donc il y avait la petite blonde un peu intellectuelle timide. Il y avait la garçon manqué. Il y avait le rigolo qui est un peu lâche. Il y avait le courageux. Il y avait le gamin qui fait des conneries. Ce qui nous a permis, cela dit, par la suite, de les enrichir et d'en faire quelque chose d'un petit peu plus subtil. Mais au début, ils sont un peu trop stéréotypés. Par contre, le héros... donc le plus important du groupe, on voulait que ça soit un gamin qui ait eu une enfance plus difficile, donc qui était plus mûr que les autres, et qui est donc plus à même de prendre des responsabilités. Or, en discutant avec Bruno, on s'est rendu compte l'un et l'autre qu'on avait un vieux fantasme d'auteur de bande dessinée. On se disait, mais il n'y a pas de héros de couleur franco-belge. Il y a peut-être Yoko Tsuno, c'est le contre-exemple, il est là. Alors il faut croire que quand c'est asiat, ça passe mieux. C'est plus, eux, ils travaillent au moins, et ils essaient de s'intégrer. Donc il y a un côté, c'est plus facile. Et on s'est dit, mais c'est quand même marrant, il n'y a pas de héros noirs. Alors, est-ce que ce ne serait pas le moment de le faire? Il se trouve que Bruno, en plus, aime bien dessiner des personnages noirs. Je précise, ça peut paraître anecdotique, mais il y a plein de dessinateurs qui ne savent pas le faire. De même qu'il y a des dessinateurs qui ne savent pas dessiner les femmes. C'est assez bizarre. Il y a des types de dessinateurs qui sont plus ou moins à l'aise, soit avec des types de peau, soit avec des types de formes de corps. Et il se trouve que Bruno, ayant vécu en Afrique, il savait très bien faire des personnages noirs, et qui plus est, des personnages distincts les uns des autres. On ne se dise pas juste, ah, encore un noir, mais ils se ressemblent tous, ces gens-là. Non, il sait les distinguer. Donc il me dit qu'il a envie de le faire, je lui dis, bah, ça tombe bien aussi, mais ça m'a posé une question presque politique. Je me suis dit, qu'est-ce que les gens vont penser si le seul héros noir, c'est celui qui a des parents dysfonctionnels, celui qui a eu des problèmes, qui a été mis dans un internat parce qu'il a été abandonné. Est-ce qu'on ne va pas m'accuser d'avoir fait, ah oui, bah forcément, c'est le bon noir de service qui est orphelin, puisque ces gens-là ne savent pas éduquer leurs enfants, c'est bien connu. Donc on s'est repris la tête, on s'est dit, bon, allez, on le fait pas, qu'est-ce que... Puis on s'est dit, allez, l'occasion est trop belle, de toute façon, ça sera le héros, donc ça nous permettra de le rendre un petit peu plus... quoi qu'il en soit, on va pouvoir l'étoffer par la suite, et on va quand même introduire un personnage dit, issu de l'immigration, version positive, socialement parlant, à savoir avec Leïla. Leïla, qui est donc le personnage de garçon manqué qui est ici, qui est sur la droite, qu'elle, on a intégré dans une famille assez bourgeoise, dont le père est médecin, des choses comme ça. On ne cherchait pas à faire quelque chose de statistiquement viable. On s'est juste dit, voilà, il y a un personnage qui sera le héros, c'est Doji, parce que c'est celui qui est le plus en responsabilité des autres. Et on pense que la couleur ne joue pas sur l'identification vis-à-vis des enfants. Je vais y revenir, parce que c'est une question qu'on a continué à se poser après. Et Leïla sera la caution pour dire, vous voyez, on n'est pas en train de dire que tous les gens de couleur en France ont des situations difficiles. Leïla vient d'une famille classique, blablabla. La question s'est posée ensuite avec les éditeurs. C'est qu'on allait les voir avec le projet, tous. On n'a pas vu que Dupuis, on en a vu plusieurs. Et un des éditeurs que je ne citerai pas nous a dit, alors on aime vraiment bien, il y a juste cette petite question du héros noir. Alors je ne suis pas raciste, mais on a des lecteurs qui le sont. Donc, alors il pensait en particulier aux Flamands, pour ne pas les citer. Il dit, ah, les Flamands sont un petit peu touchy là-dessus, ça coûterait pas grand-chose qu'ils soient blancs et vous ne vous coupez pas de ce public-là. Et avec Bruno, on s'est regardé, on a fait, mais c'est ça qu'on ne peut pas écrire ça pour des nazis ou, je veux dire, des gens qui vont se poser ce genre de questions. Et qui plus est, un des arguments qu'on nous donnait, c'était de dire, ah, puis les gamins ne vont pas s'identifier à un noir s'ils ne sont pas noirs. On a dit, mais nous, ça ne nous touchait pas du tout. On s'est dit, on s'identifie, là, je vais parler de règles de dramaturgie. On s'identifie au personnage qui vit le plus de difficultés dans une histoire. Or, Doji, il a un passif qui est très dur, il a perdu son père très tôt, il y a un beau-père qui l'a battu, des choses comme ça. Donc finalement, on va être avec lui parce qu'il vit des difficultés, parce qu'il est plus mûr. Mais ça, cet éditeur n'était pas tout à fait prêt à l'entendre, donc on a passé notre chemin, on est allé voir ailleurs. Du côté de Dupuis, les choses ont été très claires, ils ont dit « vous faites comme vous voulez ». on a lancé la série et très vite on s'est rendu compte que Doji était de fait le personnage le plus populaire. Un petit bémol près, c'est que justement à un moment donné je me suis reposé la question de me dire est-ce que je devrais pas me demander ce que pensent les gamins des différents héros. Alors je vais aller dans une école primaire et je vais faire une sorte de petit sondage. Donc j'ai dit au prof, est-ce qu'on pourrait... Alors c'était une école à la Goutte d'Or, à Paris, c'est une école très très mixte. Ce que j'appelle très très mixte, c'est qu'il n'y a pas un seul élève blanc. Ils sont asiates, ils sont rebeux, ils sont noirs, il y a vraiment de tout. Mais il n'y a pas de blanc, pas à la Goutte d'Or. Donc je me suis dit, bah, c'est le bon test. Ils connaissent la série, ils l'ont lu. Je vais faire un sondage, je vais leur demander leurs deux personnages préférés et on va voter, on va voir qui ressort. Pour voir s'il y a un effet entre la couleur de peau de ceux qui votent et les héros qu'ils préfèrent. Et le gros choc que j'ai eu, c'est qu'en fait... Alors là, il y a trois personnages, genre Terry, le gamin, Yvan, le tout petit, Yvan avec les lunettes, Kali avait à peu près 4-5 voix chacun. Leïla en avait 6-7 parce que c'est un garçon manqué, un peu péchu, il y avait pas mal de gamines de la classe qui l'aimaient bien. Doji devait avoir à peu près 9 votes. Et il y a un personnage qui est ressorti, qui n'est pas dans les héros, qui s'appelle Saul, qui en fait, dans mon esprit, était un peu le bad guy de la série. Il apparaît dans... Attendez que je retrouve ça, dans le fichier... Je suis désolé, je ne suis pas d'une... Est-ce que c'est dans le tome 7 qui apparaît très rapidement? Bon, là, on le voit de dos. on admirera mon sens de la transition. Le petit blondinet qui domine le monde. Cela dit, ça ressemble assez au personnage. C'est, en fait, c'est un vrai chef de clan qui, dans l'album qui s'appelle Le Clan du Requin, veut prendre un peu les commandes et diriger le groupe. Et lui avait genre 14 voix sur une classe de 22. Donc, je rappelle, hein, une classe uniquement de couleurs. Et donc à un moment donné, j'étais un peu surpris. Je demande à un gamin noir, je lui dis, voilà, toi t'as voté pour qui ? Moi j'ai voté pour Doji et Saul, qui sont quand même vraiment les antagonistes dans la série, hein, donc qui se détestent. Quoi. Mais je dis, alors, j'essaie de pas faire genre, mais des cons quoi ! J'ai fait, non, alors bon, qu'est-ce qui fait que t'aimes bien les deux ? Ah bah, c'est des chefs. Les deux sont des chefs. Donc ça marchait énormément, c'est des gens assez sûrs d'eux. Inversement, je demande à une gamine qui a voté pour Saul et Leïla, à me dire, je lui dis, bon, voilà, t'aimes bien Saul, mais t'aimes pas Doji, non. Elle dit, ah non, Doji, non, j'aime pas. Il se la ramène, il y a un truc que j'aime pas chez lui, alors j'essaie de comprendre un peu plus. Je dis, pourtant, Saul aussi, il est un peu chef, Doji, il est un peu chef, quelle différence tu fais entre les deux? Et elle me dit, non, Doji, il joue au chef. Saul, il est chef. Donc, elle était fascinée par le fait qu'il avait le pouvoir. Et que parce qu'il avait le pouvoir, on devait le suivre. Ce qui quand même pose un certain nombre de questions éthiques hein, derrière, c'est de se dire, bon moi ça tombait bien, je voulais que ce méchant, entre guillemets, cet antagoniste, soit charismatique. Bon bah ça a dépassé mes espérances, parce qu'il avait le plus fort taux de vote de la classe. La question que je me suis posée après, c'est est-ce qu'ils y adhèrent comme on adhère à Dark Vador dans Star Wars, mais on sait qu'il est méchant. Ou est-ce qu'ils y adhèrent en disant c'est un des héros de la série. Et là vraiment, les réponses sont très très partagées quand j'interroge les gamins. En dédicace, assez fréquemment, je demande aux enfants leur personnage préféré. Saul revient régulièrement. Et je leur dis, pour vous, Saul, il est quoi ? C'est un ennemi, c'est un allié. Alors ils disent, ah, il a un caractère un petit peu difficile. Mais c'est quand même un des héros. Pour beaucoup, c'est ça. Il y en a qui disent, ah non, moi, il me fait un peu flipper. Mais il est bien parce qu'il est dangereux et donc il y a du danger. Donc eux se rendent compte. Toute la question, elle est là. C'est qu'est-ce qui représente Saul, du coup ? Et ça, c'est passionnant, moi, en tant qu'auteur. C'est de voir qu'entre ce que j'ai voulu impulser dans la série en me disant, bon allez, lui c'est l'antagoniste, c'est celui qui est opposé au groupe. En fait, il peut être vu comme un personnage central, voire un personnage vraiment fondateur de la série. Ce qui m'arrange bien, puisqu'il se trouve que c'est un personnage qui va être extrêmement important par la suite, ainsi qu'un des personnages du groupe de 5 qui va s'avérer faire partie de l'autre camp. Donc il va y avoir une espèce de polarité entre guillemets le bien et le mal. C'est des grandes, un récit très manichéen qui m'intéresse après à Distorbe. Qui va opposer Saul à un des personnages du groupe qui va apparaître sous une autre forme. Donc voilà, ça, ce genre de retour de la part des gamins, pour moi, c'est hyper précieux et ça m'amène éventuellement à changer la façon dont je vais faire jouer les personnages au fur et à mesure.
Donc Fabien, dans cette histoire, tes personnages, on s'aperçoit quand même quand on les revoit tous les cinq. Comme tu dis, tu vas à la Goutte d'Or, c'est pas la typologie, mais c'est assez une typologie d'enfants de cours d'école, de province. Oui, oui. Un peu de vue comme ça, on retrouve ce type de personnages. Et donc ces personnages vont évoluer, se rencontrent, vont former un groupe, finalement, il va falloir qu'ils... Est-ce qu'ils le font spontanément? Est-ce qu'ils le font d'une manière, comment dire, ou forcée, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a du danger dehors, ils sont tout seuls, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, et puis il faut qu'ils se structurent. Et leur structuration, elle va se faire comment exactement?
Ben justement, je me laisse porter par le récit. Pour ça, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les... C'est exactement ce qu'il y a dans Sa Majesté des Mouches. C'est que dans Sa Majesté des Mouches, au départ, Golding dit qu'il part sur un groupe qui a plutôt tendance à s'inspirer du passé pour se dire qu'est-ce qui a déjà marché. On va plutôt reprendre des catégories hiérarchiques qu'on avait dans l'école et on va essayer de les prolonger. Et puis petit à petit, ils adaptent les règles et ils en font d'autres. Ce qui m'intéresse dans une BD comme Seul, c'est que justement, il y a des points de vue qui ne sont pas partagés. Il y a Saul dans Le Clan du Requin, il fait un clan avec un chef qui décide, éventuellement même qui humilie les plus faibles pour renforcer son pouvoir sur les autres. Là où Doji, ce que cette gamine appelait, il se la joue, il joue au chef, c'est parce que Doji, il n'est jamais sûr de lui. Doji, ce n'est pas un leader charismatique qui dit on fait comme ça. C'est quelqu'un qui en a marre à un moment donné parce que les gens ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Il dit allez, on va trancher, on ne va pas perdre de temps, il se met en colère. Mais ce n'est pas quelqu'un qui a des plans. Et ça, pour moi, on est proche de certains, j'allais dire presque sociotypes d'hommes politiques ou de femmes politiques. Il y en a qui vont devenir hommes ou femmes politiques parce qu'ils ont l'impression qu'un besoin doit être satisfait et ils sont là, ils le feront. Et puis il y en a qui le font pour avoir le pouvoir. Et je crois que c'est vrai dans une micro-société qui est celle des enfants. C'est juste sous un angle un peu différent, un peu plus ludique, parce que si j'avais appelé ça, je sais pas, sociotype politique, il n'y a peut-être pas grand monde qui aurait acheté la BD. Si c'est un groupe d'enfants dans un territoire hostile, tout devient d'un seul coup plus amusant, plus fun, et puis je rajoute un requin blanc, et hop, c'est parti, 10 000 ventes de plus.
Non, c'est pour ça que Doji, finalement, il est chef par nécessité.
Oui, c'est ça.
Il y a une nécessité de protéger le groupe, de le mener, de protection, alors que Saul est un chef naturel, un leader, quelqu'un qui a une passion, la passion du pouvoir, la passion de dominer.
Et,
quoi.
Et qui pense qu'il doit trancher. Il y a tout un dialogue dans le tome 7 où il y a une espèce de rapprochement entre les deux. On sent que Saul essaie une espèce de rapprochement de séduction vis-à-vis de Doji. Et lui dit, ton problème à toi, Doji, c'est que tu ne sais pas trancher parce que tu as peur des conséquences. Il y a un moment donné, dans la vie, il faut être dur. Et quand on doit être dur, c'est comme s'il y avait... c'est pas l'exemple que j'ai donné dans l'album, mais c'est comme si on disait il y a un empoisonnement de la main mordu par un serpent, il faut trancher la main tout de suite. Et si on doute, l'empoisonnement gagne et le corps entier y passe. Saul, il est dans le côté, on tranche. Et ça fascine les gamins, les lecteurs. Mais ça fascine pas que les gamins. On voit le type d'homme politique pour qui on a pu voter en France très longtemps, c'est souvent des gens qui décident, qui justement nous rassurent. Quoi. Et quand on sent quelqu'un qui est dans l'indécision, justement, on se dit, est-ce qu'il sera capable de trancher quand il faudra le faire ? Donc c'est quelqu'un qui est capable de dire, il n'y a pas de bonne solution, mais je prends la moins pire. Et Doji, il essaie de faire la même chose, mais avec beaucoup plus de doutes. C'est un condensé de contradictions, Doji. Donc moi, il me touche plus. Mais ce doute-là, parfois, n'est pas rassurant pour un lecteur enfant. Un lecteur enfant préfère parfois avoir quelqu'un qui va prendre des décisions, et l'exemple de Saul marche bien comme révélateur de ça.
D'accord. Doji, on comprend finalement sa psychologie dans le sens où tu disais tout à l'heure, c'est un gamin qui a perdu ses enfants. Il n'a pas eu finalement de repères adultes. Alors que Saul, dans son background, qu'est-ce qui fait qu'il est devenu un chef naturel ?
Parce qu'il est obligé de se débrouiller tout seul, tu parles de qui, pardon, de...
Doji.
Oui, Doji, il est obligé de se débrouiller tout seul parce qu'il n'avait pas de modèle.
Il n'avait pas de modèle. Mais Saul, quel a été son modèle, finalement ?
Saul, on laisse entendre plus ou moins qu'en fait, il a eu un père extrêmement écrasant, un père très solaire, très... Alors là, on ne va pas rentrer dans le détail psychanalytique, mais il va sans dire que ça parle de choses un peu vécues. Je pense que tous ceux qui s'intéressent un peu à la psychanalyse se rendent bien compte que l'image du père, elle peut être hyper écrasante pour un gamin, en particulier un père qui a fait des choses un peu sensationnelles. Comment on se positionne vis-à-vis de ça ? Soit on est écrasé, soit au contraire on essaie d'être encore plus fort. Moi, c'est des questions qui m'ont vachement marqué parce que mon père était pilote de chasse. Alors, quand j'étais gamin, j'ai encore un souvenir qui est assez frappant. Je devais avoir 3 ans, j'étais dans le petit jardin de la maison et je dis « Ah, il est où, papa ?» Et ma mère, elle me montre le ciel et elle dit « Il est là ». Et genre, il y a l'avion passé à côté du soleil. Donc moi, j'ai fait genre... d'espèce de choc traumatique, genre mon père est dans le ciel, j'arriverai jamais à être aussi haut que ça. Donc soit derrière on fait dépression sur dépression en disant je serai jamais à la hauteur, soit on se bat pour être encore plus haut qu'eux. Et j'allais dire quelque part, moi j'ai fait un mélange des deux pour expliquer le truc. J'ai eu mes phases de dépression et puis mes phases hyper narcissiques et égocentriques qui m'amènent sur scène aujourd'hui. Après je me fais mon petit trip où je dis ça marche, puis après je vais bourrer la gueule complètement dépressif. Donc j'alterne. Saul, il s'est mis dans une phase d'hyper-narcissisme. En fait, lui, sa façon de répondre au fait que son père a été un modèle énorme, c'est de se dire « je serai plus fort que lui ». Ce qui, par contre, est un poids incroyable à porter pour un enfant. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est aussi le fait que Saul, même si c'est un antagoniste, pour moi, c'est une figure tragique. C'est un gamin qui porte un poids qui est trop lourd pour lui. Et c'est aussi pour ça, je pense, que des gamins s'identifient à lui. C'est qu'ils se disent « il fait ce qu'il peut, il n'est pas toujours au point, mais il essaie vraiment de toutes ses forces. » Et après, ils n'ont pas forcément de jugement moral sur le bienfait de ce que fait Saul. Parce que j'essaie de J'ai eu tout un débat sur le tome 3, par exemple, où à un moment donné, Saul oblige Doji à traverser le bassin du requin. C'est une espèce d'épreuve, et lui dit, si tu traverses le bassin, tu seras chef à ma place. Sauf qu'en fait, si on lit bien l'album, on se rend compte que c'est piégé, parce que le requin, il sait qu'à telle heure, à tel endroit, on le nourrit. Donc si quelqu'un saute dans le bassin, il se fait bouffer, quoi. Donc en fait, il y a un piège. Mais quand même, quand j'en parlais au gamin, il disait, oui, mais si, il lui a donné sa chance, quand même. Donc c'est pas vraiment un salaud, puisqu'il lui a donné sa chance. Et puis en plus, après, il saute aussi quand Doji traverse le bassin. Donc il arrive à s'en sortir grâce à ses amis, qui attirent l'attention du requin ailleurs. Donc il s'en sort pas tout seul. Mais il a été piégé par Saul, il a accepté le défi qu'il n'aurait pas dû accepter. Et Saul est piégé à son tour, et pour redevenir chef, va sauter dans le bassin à son tour, et ça se termine assez mal pour lui. Mais je ne peux pas tout raconter, parce qu'après ça révèle des choses sur la suite, et ceci et cela, mais bon...
Il faut préserver le suspense.
Alors, oui, qu'est-ce que je peux mettre comme...
Est-ce que tu as envie ? C'est dans ton mode Kiyun, peut-être ?
Je vais peut-être mettre une page. Voilà, juste pour rappeler le type d'ambiance qu'on a essayé de développer dans la série. Là, c'était dans le premier album. C'est vraiment pour montrer le fantasme absolu pour des gamins. Moi, en tout cas, quand je faisais du vélo à 8-9 ans dans les travées autour des immeubles de mon coin, je m'imaginais en train de piquer des voitures et puis faire des trucs. Il y aurait eu un monstre quelque part, ou c'était un tigre dans le cas présent, et puis il y a un orage. Et ce que j'aimais bien dans ce résumé, c'est qu'on voit qu'ils ont transformé une espèce de Land Rover en espèce de tank, mais c'est complètement idiot. Enfin, on voit qu'ils ont accroché un râteau sur le côté. Le râteau anti-tigre, hyper efficace. Pareil pour la passoire sur la tête de Terry. À la limite, le seul qui a un truc qui sert un peu, c'est Doji avec son extincteur. Mais c'est ce mélange qu'on aimait bien. C'est que, bah, j'en reviens à la définition du post-apocalyptique. Au tout début, quand j'ai voulu faire la série, je m'étais dit, bon allez, première chose, ça se passerait sur une île. Ouais, mais sauf que des trucs sur une île, on en a vu des milliers. Qu'est-ce que je vais apporter de neuf? Bon, ça va pas. Après, je me suis dit, non, ce qui serait bien, c'est que ça se passe en ville. C'est une Robinsonade urbaine. Alors, qu'est-ce qui justifierait que des enfants soient tout seuls en ville? Et si on va dans une optique crédible, le plus crédible, qui a été d'ailleurs fait par un certain nombre d'auteurs, de bandes dessinées, entre autres, c'est d'imaginer un virus qui tue les adultes. Ça a été fait dans pas mal de séries, dont un truc qui s'appelle La Dernière Récréation, je crois qu'il y a une BD argentine. Mais le problème de ce scénario-là, c'est qu'il plonge tout de suite la série dans quelque chose d'hyper gore, quoi, parce qu'il y a des cadavres partout. Il y a des parents morts qui pourrissent dans les coins. Donc, comment on garde quelque chose de fun avec un background aussi horrible? Si je veux être réaliste et que tout le monde est mort et que tout le monde pourrit dans les rues, je suis obligé de dire à un moment donné que les gamins, ils sont tous traumatisés. Et je voulais pas ça. Je voulais que ça soit, et c'est toujours l'équilibre un peu compliqué avec Seul, je voulais que ça soit toujours un mélange entre de l'excitation et de la peur. Seul, pour moi, c'est des montagnes russes. C'est-à-dire qu'on y va pour se faire peur, surtout quand on est enfant, et on y va pour s'amuser. C'est-à-dire qu'il y a un mélange d'adrénaline et de frayeur. Alors, il y a des albums un peu plus dramatiques que d'autres, mais j'essaie toujours de garder ça. Ici, par exemple, il y a un danger physique, ils peuvent se faire bouffer par un tigre. N'empêche que Terry va toujours faire des conneries. Et qui plus est, ça a du sens par rapport à la psychologie des enfants. Un enfant n'est pas que dans le drame, ou n'est pas que dans l'amusement, il peut passer de l'un à l'autre en 5 minutes. J'ai eu le cas d'un décès dans ma famille où mes deux nièces étaient là. On sort de l'hôpital, on est en larmes, etc. 3 minutes après, ils sont en train de jouer au foot sur la place et ils ne pensent plus du tout à ça. Et c'est ça l'enfance. Après, quand on est adulte, c'est comme si on avait une sorte de force d'inertie qui fait qu'on se dit « Ah non, il faut que je sois encore triste un peu là parce que ça ne se fait pas. » Alors qu'en fait, fondamentalement, on peut passer de l'un à l'autre en 5 minutes, mais il y a une espèce de pesanteur adulte. Un gamin peut être terrifié, puis l'instant d'après s'amuser aux éclats, puis l'instant d'après pleurer. En 5 minutes, il y a des passages très très brefs. Dans Seul, on essaie de faire ça. Si ce n'est qu'il y a des albums un peu plus dramatiques parce qu'on apprend des choses sur ce qui leur est arrivé, qu'on s'aperçoit que c'est pas super drôle. Mais même quand c'est pas super drôle, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bascule qui puisse se faire vers juste du fun, des trucs qui fassent marrer les gamins.
Ouais, il faut des respirations quand même dans l'album parce que oui. Le sujet est assez grave. Alors, je vais vous poser une question. Tu parles de post-apocalyptique avec Bruno Gazzotti, ton dessinateur. Comment vous avez conçu à peu près, tu me disais, le décor urbain, mais vous avez recherché où vos inspirations, vos influences pour trouver ce décor, tous ces personnages, les accessoires et...
Alors, il y a plus. Alors, j'ai en profité pour évoquer d'ailleurs comment Bruno a fonctionné pour faire ces décors. La réponse va être un peu différente en deux temps. On a voulu faire une ville européenne, plutôt européenne. Alors, il se trouve que comme Gazzotti a beaucoup fait de bandes dessinées sur New York, parce qu'il a fait la série Soda, pas mal de gens on pensait que ça se passait aux États-Unis en fait seul, mais si on observe vraiment l'architecture de ce qu'a fait Bruno, c'est plutôt un mélange de villes européennes qui vont de Lyon à Bordeaux en passant par des morceaux de Paris, quelques villes des pays de l'Est, quelques villes de Belgique. pour en faire une espèce d'amalgame. D'ailleurs, on ne dit jamais que ça se passe en France ou en Belgique. On essaie d'éviter qu'il y ait des drapeaux de quelque nationalité que ce soit. Et on a inventé cette ville qui s'appelle Fortville. Et de là, la manière dont bosse Bruno, c'est qu'il utilise énormément le logiciel qui s'appelle SketchUp, qui est un logiciel de conception en 3D, pour obtenir des dessins de cet ordre-là. Là, par exemple, je lui avais demandé de faire un système de barrière, une espèce de palissade pour que les gamins s'enferment dans une sorte de place, et que grâce à un système de poulies très habile que je ne saurais pas expliquer, mais qu'un scientifique saura mieux expliquer que moi, qui doit expliquer qu'un enfant puisse tirer une voiture de quand même pas d'une tonne, mais il paraît que c'est faisable, qu'on puisse expliquer comment ça se passait. Donc en fait, Bruno d'abord le modélise, et ensuite, par-dessus, je vais peut-être le montrer avec un autre exemple, ça c'est la place telle qu'il l'a modélisée aussi avant de la redessiner. Donc c'est quand même un gros boulot de départ, mais après ça lui permet, ce qu'il fait, c'est qu'en fait il place sa caméra exactement où il veut, selon le moment de l'histoire. Donc il ne le fait bien entendu que pour des scènes qui vont durer un petit peu, hein. Si c'est que deux cases, il ne va pas modéliser la place complète, mais là on voulait l'endroit où les gamins se réunissaient pour faire leur petit fortin. Donc ça, il l'a modélisé complètement, et il choisit l'endroit où il posera sa caméra, il en fait une sortie, qu'il met sur sa table lumineuse, et il la redessine par-dessus. Ça va donner par exemple un décor qui donnera, alors je crois que c'est ça, voilà. Ça sera la version, je crois que ça c'est la version dessinée après, redessinée par lui. Et ça c'est la version telle qu'il l'avait modélisée et mise au départ. Donc en fait il a la perspective parfaite, il est sûr que les perspectives sont nickel. Et après il redessine à la main pour éviter qu'on ressente trop la perfection en fait de l'infographie. Ce qui souvent se voit un peu, enfin pas souvent parce que maintenant en BD il y a des progrès énormes là-dessus, mais donc, son dessin est quand même très sensuel, quoi. C'est fait à la plume, très dynamique. Donc si d'un seul coup il y avait un décor en 3D qu'on sente trop en 3D, ça passera pas. Par contre, si lui, une fois qu'il ancre ça, on ressent... l'image n'était pas assez grande, mais il y a une façon de faire les ancrages, il y a une façon de faire les briques dont on sent bien qu'elle a été faite à la main, et qui fait que même si l'image est parfaite en termes de proportion, grosso modo, on sait quand même que c'est quelque chose qui est non, repassé.
C'est quelque chose qui n'est pas une image informatique, quoi.
Voilà, c'est inspiré par l'informatique, mais voilà, c'est ça. Juste pour évoquer éventuellement la manière dont lui bosse d'ailleurs, c'est que au départ il commence par un découpage qui est très très basique, très très schématique. Il passe par un crayonné un peu plus grand, puis l'ancrage encore un peu plus grand. Donc chaque étape en plus est adaptée au fur et à mesure de son travail. Bon, enfin là je rentre dans la partie un tout petit peu technique, je ne sais pas si c'est.
C'est toujours intéressant de comprendre un peu comment ça marche.
Et il modélise aussi les véhicules. Par exemple, on cherchait, voilà, on voulait un type de modèle de voiture qui n'existe pas vraiment en France, ou pas forcément, et sauf que là ça existe, mais c'est genre que dans les localités où ils ont beaucoup de thunes, parce que je crois que c'est une voiture qui coûte quand même la peau des fesses. Je crois que c'est une Sabura ou un truc comme ça. Alors, pour être très honnête, moi j'y connais rien en voiture, je m'en fous complètement. Par contre, ça m'amène à évoquer un autre intérêt de pourquoi j'ai bossé avec Bruno et pourquoi je lui ai proposé ça. C'est parce que Bruno, il a un dessin qu'on qualifie de très classique franco-belge, qui est hyper talentueux, et qui est quand même assez réaliste. En fait, on l'appelle semi-réaliste. Il y a 10 000 dessinateurs avec qui j'aurais pu le faire seul. Il n'y a que Bruno à qui j'ai eu envie de le proposer. Parce que justement, quand Bruno dessine un véhicule, je sais qu'un gamin qui aime ça va reconnaître le véhicule. Il connaîtra la marque. Il saura comment c'est fait. Or, je pense qu'un enfant qui lit une BD, du moins un certain type de BD, peut avoir un rapport à ça qui est très proche du goût qu'on a pour les maquettes, par exemple, quand on est enfant. On aime bien le goût de la perfection, on aime bien le goût de la vérité et la véracité des choses. Quand Bruno dessine un flingue, c'est une marque de flingue, c'est pas juste un pistolet.
C'est un modèle existant.
Et ce genre de détails, il y a plein de lecteurs qui s'en foutent, mais il y a plein de lecteurs qui s'en foutent pas du tout. Et là, le fait qu'on ait un vrai modèle de voiture pour la police, je sais qu'il y a plein de gamins que ça a frappé, en fait. Et d'ailleurs, on peut montrer un des exemples où il l'a... Ou après, il a mis en scène une de ses voitures, parce que c'est une de ses spécialités, hein, les poursuites en voiture, il fait ça très bien. Et je voulais montrer cette page aussi, alors malheureusement, la définition n'est pas très bonne. Pour expliquer au passage, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu la série, qu'on s'amusait avec Bruno à proposer un jeu au lecteur, mais un jeu dont on n'a jamais parlé. L'indice, c'est que ce jeu commence dans cette page, qui est la page 13 du tome 5, où il y a cet accident de voiture. En fait, Bruno m'a appelé en disant, écoute, J'ai fait une connerie dans la page. Il y a un truc que j'aurais pas dû faire, je me suis gouré. Bon, je vous dis pas quoi là tout de suite, mais parce qu'en plus vous le verrez pas, c'est trop mal. C'est trop pixelisé. Mais dans cette page-là du tome 5, il a fait une erreur. Il m'a dit de deux choses l'une, soit je la gomme, soit on en profite pour faire quelque chose qui serait une idée qu'on garde dans la série. Ce qui est devenu ce qu'on a appelé l'enfant mystère. et qui est un truc qui a passionné pas mal de gamins sur internet quand ça a commencé à sortir. On n'en a parlé à personne. À personne, même notre éditeur n'était pas au courant. Il y a un jeu, c'est une sorte de jeu qu'on propose aux lecteurs, c'est de dire voilà, à partir du moment où les enfants sont dans ce qu'on a appelé la zone rouge, pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est une zone d'autant plus dangereuse à l'intérieur de la ville où il se passe des trucs vraiment chelous. Plus les enfants vont dans la zone, plus il y a une présence qui est là, mais qu'on ne voit pas, mais elle est là. Donc comment on manifeste ça en termes graphiques ? Et l'erreur de Bruno nous a permis de trouver une astuce qui fait que oui, il y a un enfant mystère qui apparaît dans ces pages, à peu près dans toutes les pages à partir de la 13. Et on l'a dit à personne. Et on s'est dit, quand est-ce que ça se verra ? Et on a vu apparaître, petit à petit, sur nos blogs, les enfants qui disent, il y a un truc qui est bizarre, dans la page 35, j'ai vu, alors là, je ne dis rien, j'ai vu, à tel endroit, c'est bizarre, non ? Puis on dit, ah, tu l'as vu là, et ailleurs, tu l'as vu ou pas ? Et alors là, c'est devenu, ça s'est enflammé, quoi, c'est genre, mais quoi, hein, qu'est-ce qui se passe ? Et on s'est amusé après, du coup, à ce que dès que les enfants retournent dans la zone rouge, ils soient là. Cet enfant mystère s'est avéré être un personnage qui apparaît dans le tome 7. Il change de nom parce que ça devient l'enfant des miroirs. Cela dit, il n'apparaît pas que dans les reflets, parce que ça aurait été plus logique. Mais c'est bien pour montrer aussi qu'entre les idées qu'on a au début, puisqu'on fait après, il y a des fois des ouf, ouf, un peu du jonglage, quoi. Mais au tout début, on voulait juste qu'il y ait une espèce de présence fantomatique. Un enfant est là dans les pages, simplement, pour plein de raisons, on ne le voit pas si on n'y fait pas vraiment gaffe. Et si on regarde de très près, on s'aperçoit que les enfants sont constamment suivis par une présence. Et ce que je trouvais génial, c'est d'imaginer, bon, c'est un peu... forcément c'est un peu tiré par les cheveux notre truc, mais d'imaginer que les enfants puissent percevoir cette présence sans vraiment savoir qu'elle est là, comme un fantôme, quoi. Donc en particulier les tomes 5 et 6 sont hantés par un enfant, et comme c'est un peu toute la thématique de Sol, hein, qui parle beaucoup de l'enfance, beaucoup de la mort, etc., le fait qu'il y ait une espèce de hantise dans le tome 5 et 6, pour nous c'était génial, et de voir en plus que les gamins s'en emparaient et en parlaient entre eux en disant est-ce que tu as vu l'enfant mystère et où il est, et moi j'ai trouvé à tel endroit et toi, etc.
Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que comment les lecteurs se sont appropriés, les personnages, sont appropriés les jeux. Et puis maintenant, vous en arrivez à une interactivité, à jouer avec eux, à communiquer. Tout ça grâce aussi à l'informatique, évidemment, parce qu'avant, c'était plus compliqué. Mais qu'est-ce que justement l'informatique vous a apporté ça ? Et ce fait d'interactivité avec votre lectorat doit être absolument fabuleux et enrichissant, quoi.
Alors moi, c'est un des trucs que j'adore. On a un débat un peu philosophique avec notre éditeur sur la question... De l'interactivité et du participatif vis-à-vis des enfants. On l'a fait avec un jeu, mais qui était très canalisé. En fait, il y a eu deux jeux. Il y a eu un jeu à un moment où un des personnages se fait descendre et il fallait essayer de deviner qui l'avait descendu. C'était une réminiscence de Dallas, pour ceux qui sont de ma génération. Parce que Dallas, à une époque, il fallait deviner qui avait tué sur JR, ça m'avait marqué. Donc, on a fait ça à une époque. Et là, c'était un autre jeu. On a demandé aux gamins de participer à un concours où ils devaient inventer leur clan. Un clan qui serait dans la BD et celui qui aurait le plus de votes pour son clan en ligne. Donc je cache pas que c'était une idée du marketing, hein, puisque l'idée c'est que ça soit viral et que les enfants en parlent entre eux et qu'il y ait un vote. Je vais revenir là-dessus pour dire après que par contre avec du recul j'aurais changé un peu les règles, mais au début c'était une idée du marketing pour dire si on pousse les enfants à faire un jeu où ils vont devoir faire voter pour eux, ben on fait connaître la série et du coup ça fait effet boule de neige et puis en plus il y a une excitation et le gagnant apparaît dans l'album 7. Apparaît graphiquement, c'est un des héros de la série. Et les 5 suivants ont un rôle un petit peu plus secondaire, un peu de personnage secondaire. Ça a très très bien marché, le concours a énormément d'inscrits. Le gagnant a eu énormément de votes non truqués, parce qu'il y a eu aussi ceux qui ont eu des votes quand on s'est rendu compte qu'ils avaient un peu bidouillé leur ordinateur, parce qu'on peut avoir 13-14 ans et être déjà très très fort en informatique.
Ils ont bourré les urnes.
Il y en a qui ont bourré les urnes. Mais celui dont on a su vraiment à 100% que c'était bon et qu'il n'avait pas triché a été le gagnant, il s'appelle Tanguy. Et il est devenu un des personnages qui intervient à la fin du tome 7. Alors d'ailleurs, ça posait un nombre de problèmes incalculables de logistique, parce que nous, on devait avancer sur le tome 7 sans connaître le gagnant. Et j'avais quand même déjà la séquence où il apparaissait à la fin. Donc je savais qu'un personnage, je ne savais pas qui, allait faire des trucs. Mais je ne savais pas si ça allait correspondre à son personnage ou quoi. Enfin, c'était assez bizarre. Mais il a une scène à la fin, un peu importante. Et puis les autres sont des figurants qui subissent un peu, mais enfin, ils sont là quand même. Ils font partie des survivants du tome 7 et ils vont revenir dans le tome 8. Où ils s'en reprennent un peu plein la tête, d'ailleurs, parce que dans le tome 8, les héros s'en prennent plein la tête. Donc là, c'est une interactivité très canalisée, avec un plan marketing et avec un bémol à mes yeux. C'est que des gamins m'ont dit pendant le concours, moi j'aurais bien aimé jouer, mais j'ai pas d'amis. Donc personne va voter pour moi. Et c'est un peu emmerdant parce que c'est l'esprit de seul, ce qu'ils me disaient. C'est que des fois dans la vie, on est tout seul. Quoi. Et moi, j'étais pas toujours le gamin le plus populaire de mon collège. Donc d'un seul coup, je me suis retrouvé à leur place en train de me dire, bah oui, c'est vrai que j'aurais eu aucune chance de gagner à ce concours. Quoi. Donc en cours de route, j'ai voulu changer les règles en disant est-ce qu'on pourrait pas choisir quand même un ou deux gamins qui n'ont pas beaucoup de votes, mais dont l'idée du clan, les dessins, les trucs comme ça, ils sont vraiment bien. Sauf que les règles avaient été déjà posées et on m'a dit chez Dupuis, ben non, on ne change pas des règles en cours de route, sinon c'est très injuste pour ceux qui ont commencé à le faire, à parler d'eux dans leur collège, etc. Donc on s'est juste dit que si on devait le refaire par la suite, j'aurais peut-être mis ça parce que ça allait un peu à l'encontre de la philosophie de la série qui dit justement, c'est pas les plus populaires qui s'en sortent. Bon, je ne dis pas ça pour Tanguy, hein, qui est un gamin super et qui a réussi à mobiliser quasiment tout son collège pour voter pour lui. Il a été super fort, mais j'aurais bien aimé aussi intégrer quelques losers comme moi, gamin. Quoi.
Non, mais c'est logique, c'est peut-être un leader politique sur le Tanguy.
C'est peut-être un futur leader.
Et il a su convaincre quand même toute la population.
Bah là, en tout cas, il a
fait une belle campagne de pub.
Tout à fait. En plus, il a fait ça dans un collège africain. Son père étant expatrié, donc c'était assez
chouette.
Et je reviens par contre sur le côté participatif et la différence philosophique qu'on a eue avec Dupuis. On a une page Facebook sur le sol, et à un moment donné, moi j'ai dit, bah tiens, un des intérêts de la chose, c'est qu'on pourrait peut-être demander aux gamins de dire, et qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour la suite, qu'est-ce que vous pensez des héros, est-ce que vous avez des idées, est-ce que vous avez des hypothèses. Ce que je fais en fait en dédicace. En dédicace, j'aime bien essayer quand j'ai le temps, parce que c'est pas très long, mais de discuter un peu avec les gamins, de savoir déjà quels sont les personnages qu'ils préfèrent, et puis au-delà de ça, est-ce qu'ils ont des pistes pour la suite, est-ce qu'ils attendent des choses, est-ce que voilà. Mais Dupuis n'a pas très envie qu'on le fasse sur Facebook, parce qu'ils ont peur que si je récupère une idée, on a des problèmes derrière vis-à-vis des parents, des gamins qui diraient l'idée vient de mon fils, il faudrait
oui,
que... Alors, le truc c'est que je ne suis pas vraiment certain que ça se passerait comme ça. J'ai du mal à croire quand même que le participatif soit si avide derrière de la part des gamins qui veulent participer. J'ai l'impression qu'il y a une envie de participation qui est simplement très saine, quoi. C'est l'envie de dire, monsieur, moi j'ai pensé à un truc, ça serait bien. J'ai l'impression que du coup, je passe à côté d'un fond d'idées qui pourrait être génial et qu'après, il faudrait que je réadapte. De toute façon, au final, c'est Bruno et moi qui allons décider ce que devient la série. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait quand même d'un petit peu solliciter les gamins en disant « Tiens, est-ce que vous avez des pistes ? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» Et après, on en fait ce qu'on veut. Donc là-dessus, on ne s'est pas vraiment mis d'accord. Et le service juridique de Dupuis a eu plutôt de tendance à me dire « Calmons le jeu, si tu veux poser des questions à des gamins quand tu les vois, d'accord, mais pas en ligne. » Ce que je trouve un peu dommage parce que le participatif d'Internet, pour moi, ça serait ça l'intérêt.
Non, la série a commencé à combien ? 7 ans, 7 albums. Donc
7 albums, oui.
Ouais, 7 ans, donc vous avez, votre public a quand même vieilli un peu, vous le gardez et vous le renouvelez. Mais le public vieillissant, vous, est-ce que vous allez faire vieillir je ne vais pas appeler les héros, le groupe, est-ce que les personnages vieillissent ? Ils devraient finalement...
Alors c'est toute la question de la fameuse quatrième dimension et demie qui donne le titre d'un des albums. Bon, là, je suis obligé d'avoir un discours un peu foireux parce qu'il y a des gens parmi vous, peut-être une poignée, qui connaissent la série, donc ils savent ce qu'est la quatrième dimension et demie. D'autres ne savent pas. Donc je vais être obligé de l'appeler comme ça. C'est un terme générique pour dire c'est un endroit particulier, etc. Mais on flirte très clairement entre la catégorie littéraire du fantastique et celle de la science-fiction. Quand on en parle avec un autre nom de là où ils sont, ça sera plus fantastique. Quand on parle de quatrième dimension et demie, ça fait plus scientifique. Or, la question qui se pose, c'est est-ce que dans cette dimension, les enfants vieillissent ? Et a priori, non. Pour l'instant, on les garde au même âge. Ça nous paraît plus intéressant comme ça, d'autant que... Donc, on n'a pas la même approche qu'une Rowling, par exemple, sur Harry Potter, avec, par contre, le même problème de fond, qui est quand même que nous, on a des gamins qui découvrent la série maintenant, au tome 7, qui du coup lisent les 7 premiers d'un coup et après sont très impatients de la suite, mais il y a ceux qui les ont découverts au tout début, qui ont déjà 7 ans de plus et qui en ont sans doute plus rien à foutre des aventures de Seul. Alors on a un renouvellement sans doute des lecteurs. La chance qu'on a eue, c'est que ça s'est avéré ne pas être qu'une série jeunesse, sans doute parce qu'il y a des lecteurs qui ont découvert ça en connaissant Gazzotti, qui venait du Polar, qui venait de Soda, et qui nous ont suivis parce qu'ils aimaient Gazzotti. Donc en fait, là encore, le paradoxe, c'est que les 3 premiers albums se sont vendus à des adolescents et des adultes. Alors que j'arrêtais pas de dire à Dupuis, c'est une série pour enfants. Il me disait, oui, mais t'as vu les couvertures avec du sang partout, des couteaux, là, encore un exemple où j'ai pas pu m'empêcher. En plus, là, c'est de la peinture rouge, ce qu'il a sur lui, c'est vraiment, en fait, c'est la grosse arnaque. Mais je voulais que ça soit hyper sanglant, parce que c'est la marque de fabrique de la série. Et je veux en plus que ça soit clair vis-à-vis des parents qui l'achèteraient à leurs enfants, c'est pas oui-oui. Il y a des enfants qui meurent dans le truc, il y a des requins, il y a des gens qui s'entretuent. Donc je veux que ça soit clair. Et en même temps, je veux expliquer aux parents que c'est quand même bien pour les enfants. Et j'ai souvent eu la situation de me retrouver dans une file d'attente où il n'y a que des gamins et un couple au milieu d'adultes qui viennent en disant bah nous on aime bien la série mais on n'ose pas l'offrir à nos enfants. Je leur dis, mais regardez qui est dans la file, quoi. C'est pour les enfants de 10 à 14 ans. J'en connais même qui l'ont lu à 7-8 ans. Bon, il faut être un peu plus mûr parce que j'ai quand même aussi des retours de gamins qui m'ont dit, ah oui, j'ai juste fait pas mal de cauchemars sur le maître des couteaux, ou alors j'ai rêvé que j'étais mangé par un requin. Alors j'essaie de faire en sorte que les parents soient pas là, hein, quand ils disent ça. Mais non, mais c'est normal, ça leur passera. Ça leur passera.
Non, c'est Eric, il prend pas les enfants pour des imbéciles.
Non, c'est ça. Moi, je pars du principe qu'on peut tout évoquer avec un public d'enfants. Il faut juste faire attention à la manière dont on fait. Et ça nous amène à des choix de mise en scène qui parfois sont compliqués. Je vais reprendre l'exemple du tome 3 de la série. Un enfant se fait manger par un requin. Qu'est-ce qu'on montre de ça? Bon, on va clairement pas, enfin, on s'est dit avec Bruno, on va pas montrer des morceaux d'enfants qui flottent à la surface tout de même. Un peu, il y a une limite. Donc on a fait il y a une ellipse, attaque du requin, la mâchoire s'ouvre devant l'enfant, on voit plus rien, un bouillon sanglant, c'est déjà assez dur, on passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on a réalisé après? Que pour plein d'enfants, le gamin s'en était sorti. Il avait dû nager au fond de la piscine, on ne sait pas, on est dans de la BD, donc tout est possible. D'ailleurs, la suite montre que tout est possible. Mais du coup, ils n'y ont pas vraiment cru, pas tous. Ils se sont dit, bah non, il n'est pas vraiment mort. Du coup, après, il y a un autre personnage qui meurt. Et pareil, il y a un côté, est-ce qu'on meurt pas dans cette dimension? C'est Doji. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on montre du coup, puisqu'ils n'y ont pas cru au premier? Et il a fallu qu'on trouve une scène, assez dure d'ailleurs, où ils retrouvent le corps de leur copain Doji qui est mort. Et on s'est dit, mais comment on montre ça à des gamins de 10-14 ans? Alors, on a mis des corbeaux autour, donc c'est quand même une scène un peu dure, quoi. On voit la main de Doji qui est un peu décharnée. Enfin, nous, on se disait déjà, oula, on va assez loin. Et après, on a regardé les réactions sur les forums internet. Alors, c'est assez drôle, des adultes. Hein. Il y a des adultes qui ont fait, c'est honteux, comment on peut montrer ça à des enfants? Et moi aussi, si j'avais un enfant, parce que souvent, c'est les réactions de lecteurs qui n'avaient pas d'enfants. Si j'avais un enfant, je trouverais ça honteux et je ne voudrais pas qu'il le lise. Ou alors, comment je lui explique une chose pareille? Et un internaute qui lui répond, écoute, je pense que tu pourrais lui dire que Doji a retourné dans le long cycle de la nature et qu'il a été mangé par d'autres bêtes. Donc tout ça est très beau. Alors, je trouvais assez chouette cette espèce de... On se serre les coudes pour expliquer ça aux gamins qui eux-mêmes, honnêtement, on n'aurait rien eu à faire. Ils se sont dit juste, ah ouais, il est mort. Ah, c'est dur. Ils n'ont pas été choqués par ça, en fait. Par contre, c'est vrai qu'on ne serait pas allé jusqu'à montrer l'entièreté du cadavre ou s'arrêter sur des détails. Il y a un autre enfant qui se jette dans le vide dans le tome 6 parce qu'en fait ils commencent à croire les uns les autres qu'ils ont une forme d'immortalité. Ils se jettent dans le vide et on a voulu aussi montrer que de fait c'était pas si drôle que ça, quoi. J'ai pas l'image malheureusement, mais c'est un personnage qui s'appelle Charlie. J'ai dit à Bruno, voilà, il se jette dans le vide en pensant qu'il est immortel. Simplement en cours de chute, il réalise que c'est pas une bonne idée parce qu'il commence à avoir peur, quoi. Et il a rendu ça en une case, je crois que j'ai jamais vu une synthèse aussi réussie de ça, un mix d'expressions entre la peur panique et l'excitation. C'est-à-dire qu'il commence à crier genre « Ouais !» Il s'écrase comme une grosse merde au sol, on ne le voit pas, je le préviens quand même, on ne le voit pas s'écraser, et c'est dramatique, mais c'est drôle. Et c'est ce mélange que j'aime bien dans Sol, c'est que c'est les deux, ça peut être dramatique et drôle. Et là, pour moi, Charlie, le pauvre, c'est juste une victime de quelque chose qu'il a cru très facile et qui s'avère pas facile du tout. Parce que bien entendu, il fallait qu'on fasse gaffe vis-à-vis du message qu'on envoie aux gamins. On va pas leur dire hey, tu peux, la mort c'est facile. Non, il faut qu'on soit dans quelque chose d'un petit peu plus subtil, en disant il se trouve qu'ils sont dans un univers où ils ont l'air d'être immortels, mais c'est pas une mince affaire quand même d'y passer. Est-ce que ceux qui l'ont vécu le disent? Ils disent c'est pas si drôle.
L'immortalité, c'est très long.
C'est très long, surtout vers la fin. Oui, voilà.
Bon, pour conclure, on va peut-être te donner la parole à l'assistant si vous avez des questions à poser à Fabien.
Bonjour Fabien.
Bonjour.
Moi, je voulais savoir comment est-ce que tu fais pour avoir une psychologie de personnage adaptée à leur âge et un dialogue et des dialogues qui sont adaptés à leur niveau de langage et voilà.
Alors déjà, je ne sais pas si je le fais bien, honnêtement, parce que j'ai pas d'enfants, alors j'ai des neveux et nièces, je côtoie des gamins, etc. Mais je sais que j'ai en tout cas essayé, à l'inverse, de ne pas singer ce que je pensais être le langage des enfants. C'est-à-dire que souvent, ce que je trouve embêtant dans certaines BD, c'est quand ça veut faire Jones et que ça se démode immédiatement parce qu'on met du verlan partout. Alors, et en même temps, il y a des fois, je me retrouve à le faire avec des expressions parce que c'est celle que j'emploie moi tout le temps, genre « mais t'es ouf ». Je vais le dire parce que je le dis moi, ce qui est peut-être pas un signe de maturité folle ou de respect de la langue française, mais je l'emploie. Par contre, si je devais, dans toutes les expressions, mettre une expression typiquement Jones ou mettre bolos parce que c'est ce qu'ils sont en train de dire, j'ai plus de mal parce que j'ai peur que ça se démode, en fait. Alors ça, c'est déjà pour ce qui est du vocabulaire. Après, pour la psychologie, c'est autre chose. Pour la psychologie, en fait, je ne pense pas être si crédible que ça par rapport à l'âge qu'ils ont réellement. c'est plus une espèce de projection fantasmée de ce qu'un gamin aimerait être à cet âge-là. C'est-à-dire que Doji est clairement plus mature, Leila fait plus de choses qu'une gamine de son âge pourrait faire. Bon, Terry est vraiment plus con qu'un gamin de son âge, mais c'est un peu le contre-exemple. Anton, qui est un peu un personnage qui est très pratique pour que je place des théories scientifiques à deux balles, c'est le surdoué de service qui en fait me permet de placer mes théories. J'entendais dans la conférence d'avant comment on amène les théories scientifiques dans une série. Ben, y a souvent quelqu'un qui explique, ben, j'ai mon professeur Nimbus, c'est Anton. Donc en fait ils sont peut-être pas très crédibles dans ce sens là par contre ce en quoi j'essaie de crédible c'est ce qu'ils ressentent et les sensations qu'ils ont aux gamins. Et pour ça, plus encore que d'en discuter avec les enfants, je crois que je me ressource dans ce que j'ai vécu enfant. Et je pensais au début ne le faire qu'avec Yvan, donc celui qui a des lunettes derrière, qui était clairement moi enfant, c'est-à-dire un peu grande gueule, assez lâche, très imaginatif, mais très lâche. Et je pensais que les autres, c'était une création de l'esprit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un peu plus compliqué, c'est que chacun de ces enfants est un archétype de ma psyché. C'est-à-dire que Yvan est celui qui me ressemble le plus en termes de sociabilisation. Doji, c'est ma partie courageuse plus mûre, parce que je crois que j'en ai une quand même, peut-être plus noire aussi. Terry, c'est celui qui déconne et qui sera capable de faire les pires conneries, même quand il ne devrait pas, parce que je suis aussi comme ça. Et même les personnages féminins peuvent être la partie féminine que je peux avoir. De ce côté-là, je suis très jungien dans l'approche de mes personnages. Je crois beaucoup au fait qu'on n'est pas un seul individu dans sa tête. Quand je dis ça, ce n'est pas pour paraître complètement fou ou schizophrène ou à personnalité multiple. Je crois qu'on a tous des facettes de nous qui se mettent plus ou moins en avant en fonction des situations. J'ai une facette showman quand je suis sur scène et que je veux parler de mon boulot, et là je vais avoir l'air très sûr de moi sur des trucs. Je vais avoir une autre facette qui sera beaucoup plus recroquevillée sur elle-même et mal dans sa peau dans un autre endroit où je ne serai pas mis en avant, où on ne me connaît pas. Je ne serai pas le même quand je serai dans ma famille, je ne serai pas le même avec mes amis. Donc en fait j'ai l'impression que dans chaque esprit humain il y a une espèce de petit panthéon de personnages, et qu'en fonction des situations il y a un de ces archétypes qui se met en avant. Donc en fait chacun des personnages de Saul, c'est moi. Et même Saul dans son délire de puissance, et je l'ai dit tout à l'heure, hein, et cette envie de lutter contre une image du père qui est celle qu'on retrouve dans Don Giovanni, hein, c'est celle de la statue du commandeur, quoi. Bah, c'est moi. Bien sûr que je me suis débattu avec cette image très longtemps. Doji, ce sera un autre côté, etc. Donc j'ai l'impression que si on parle de l'être humain, finalement, que ce soit pour les enfants ou pas pour les enfants, j'ai pas tellement à changer leur façon de le dire. La seule différence, c'est le fait qu'ils puissent passer très très vite d'un état d'esprit à un autre, et ils vont se marrer, et l'instant d'après, ils vont être terrifiés. Donc on peut être dans un truc presque comique grâce à ça. Là où, peut-être avec des personnages adultes, j'aurais un peu appesanti leur réaction, et quand on est triste, ah là 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 là, et quand on est joyeux, c'est vraiment chouette. Enfin, voilà, peut-être que je suis juste un peu plus rapide dans les passages. Après, il va sans dire que de discuter avec des gamins m'a quand même vachement aidé. Je pense par exemple à un des personnages qu'on voit assez peu, qui s'appelle Betty, qui est une passionnée de jeux vidéo. On la voit à un moment donné, justement près de l'espèce de barrière que je montrais en 3D tout à l'heure. Elle est dehors et elle est sous son manteau en plein jour. En fait, c'est parce qu'elle est en train de jouer à la PlayStation, à la DS, sous son manteau, dehors. C'est parce que ça, c'est un de mes neveux. On lui avait dit, mais arrête de rester à la maison toute la journée, il fait beau dehors. Et il était sorti, il avait mis sa veste sur lui et il jouait à la DS sous la veste parce qu'il y avait trop de soleil. Ben, ça, par exemple, oui, j'aurais pas pu l'inventer spontanément sans le voir. Donc il y a des petites scènes comme ça qui peuvent m'être inspirées par des gamins que je connais. Mais dans l'ensemble, je pars du principe que c'est juste des êtres humains avec une espèce de côté un peu, tout petit peu plus versatile qu'un adulte, et qu'après, c'est des choses que j'ai vécues moi ou que Bruno a vécues, parce qu'on discute énormément de ce qu'on veut mettre dans la série.
D'autres questions ?
Oui, j'ai une petite jeune fille là.
Bonsoir. Dans toute la BD, quel personnage
préféré ? Alors du coup, c'est compliqué à dire parce que... Alors ce que je vais dire va être une réponse un peu bizarre, c'est qu'en fait j'aime bien tous les personnages que je fais. Parce que c'est comme mes enfants, donc ça sera difficile de dire qu'il y en a un que je préfère. Cela dit, un truc que j'ai remarqué, bon j'aime beaucoup les personnages principaux. Au passage d'ailleurs, Camille, par exemple la petite blonde, c'est pas le personnage préféré des lecteurs. Il y a quelques personnages qui l'aiment beaucoup, il y a quelques lecteurs qui l'aiment beaucoup, mais pas tant que ça. Alors que moi, c'est un des personnages que j'aime beaucoup, parce que je trouve justement qu'elle est très paradoxale, elle est très courageuse, alors même qu'elle n'est pas si forte que ça dans ce qu'elle fait. Donc il y a des personnages dont je me rends compte que je les apprécie plus moi que les lecteurs, ça peut arriver. Mais un truc que j'ai réalisé par contre qui m'a vraiment surpris, c'est qu'il y a des personnages qui n'apparaissent que dans deux ou trois séquences de toute la série, que moi j'aimais énormément, et que les enfants aimaient aussi. Alors, je pense à Edwige, par exemple, qui est un personnage qui est un peu batailleur, une gamine qui a une batte de baseball et qui casse tout. C'est un personnage que j'aime beaucoup, qui apparaît très peu, qui est devenu vraiment, il y a beaucoup de gamins qui l'ont apprécié. Il y a un personnage qui s'appelle Jonathan, qui apparaît genre deux fois. Il est du côté du clan du requin, donc il est plutôt un des ennemis des héros, mais c'est un asiatique. Et à un moment donné, il délivre Ivan dans le tome 6, et il lui arrive un truc dans le tome 7. Donc il apparaît que deux fois, et très peu. Et il y a plein de gamins qui me le citent parmi leurs 6 personnages préférés maintenant en dédicace. Parce que même s'il apparaît très peu, ils ont perçu un truc que moi j'ai voulu y mettre de manière mais très très brève. Et de me rendre compte qu'il y a cette subtilité-là, et que des fois moi je peux aimer un personnage et juste essayer de le rendre un peu sympathique, ça peut passer auprès des lecteurs, c'est génial. Parce que ça veut dire que du coup je peux vraiment développer plein de personnages. C'est aussi le cas d'un gamin qui s'appelle Boris, qui est l'ami de Zoé pendant tout un album, et qui finit assez mal en fait à la fin du tome 5. Il est absorbé par une espèce de... un immeuble assez affreux rempli d'insectes grouillants. Je suis désolé de le présenter comme ça pour ceux qui ne connaîtraient pas la série, ça n'a peut-être pas envie. Une espèce de monolithe comme ça. Il est absorbé dedans et il revient, on sent qu'il a complètement changé, que c'est presque un zombie. Ben moi j'avais l'impression que le personnage n'avait pas vraiment posé. Il apparaît un peu, il est un peu sympa. Moi je l'aimais beaucoup. Mais je me disais, les enfants s'en fichent en fait, je pense, de ce personnage, ils ne le connaissent pas. En fait, si, ils avaient repéré qu'il avait voulu aider à un moment donné, qu'il n'avait pas réussi, il est quand même un peu tragique, il lui arrive un truc vraiment dur. Et du coup, il y a plein de gamins qui disent « J'espère qu'il va s'en sortir, j'espère qu'il va pas rester un zombie tout le temps. » Donc c'est bien, il y a des petits personnages qui apparaissent en second plan, que je pensais vraiment qu'il allait rester dans l'ombre, et qui finalement marchent assez bien auprès des lecteurs. Donc ça, c'est génial, ça c'est, pour moi c'est vraiment génial. Il y avait une question par là, et puis au fond... Salut.
Je voulais te demander ce que tu disais pour l'enfant mystère, que c'était Diana,
oui.
À la base, et après il est super important.
Oui, oui, tout
ça
à fait.
Ça a changé tout le reste de l'histoire, comment t'as senti ?
Ça fait partie des accidents heureux d'une série, c'est qu'en fait... Bon, il y a des trucs que je ne devrais pas dire parce que ça va vraiment faire le type qui ne sait pas ce qu'il écrit. Mais par exemple, il y a quand même un truc qui est devenu une mythologie principale de la série, c'est les 15 familles. Les 15 familles, c'est un machin que j'ai inventé au moment du tome 2 en me disant j'aurais une idée vague qui serait ça, et puis je vais faire quelque chose dessus. Et c'est devenu, c'est au-delà de fondateur de la série, c'est devenu maintenant la mythologie fondatrice mais totale de la série. Mais c'est venu en cours de route parce que j'ai vu que les gamins réagissaient dessus à mort. Quoi. C'est-à-dire que dès le second album, les gens... Les lecteurs me disaient, mais les 15 familles, mais c'est quoi ? Et moi, au début, j'aimais bien la sonorité, parce que ça fait genre jeu des 7 familles, et puis ça fait inquiétant, et puis ceci, et puis cela. Bon, j'avais une idée de ce que c'était, mais je ne l'avais pas développé autant. Et puis, c'est devenu super présent, et au point, effectivement, ça a structuré le reste de la série. L'enfant mystère, effectivement, est devenu un personnage très, très important. C'est un peu moins important que les 15 familles, mais il s'est inscrit dedans. Donc, en fait, ça va devenir un des personnages de ce panthéon que je décris, de cet univers. Parce que, en fait, seul, ça a commencé comme une série qui ressemblera un peu à un thriller fantastique, un peu à la manière des épisodes de la quatrième dimension, où ça paraît assez encore crédible, entre guillemets, enfin, c'est toujours la vie. Et ça vire à partir du deuxième cycle, dans quelque chose de plus proche d'une saga à la Tolkien ou au Seigneur des Anneaux, avec des grands enjeux, des grandes batailles, quelque chose de très manichéen, ce que j'évoquais. Mais on voulait que ça se fasse très doucement avec Bruno. On s'est dit que si on commençait tout de suite par du super fantastique, on allait passer à côté des lecteurs qui n'ont pas forcément envie d'entrer dans du Tolkien ou du Seigneur des Anneaux. Il y a plein de lecteurs qui sont un peu repoussés par le genre heroic fantasy ou trop fantastique. Donc on a voulu y aller doucement avec des enfants qui ont l'air ancrés dans quelque chose de très réel et les amener petit à petit à déployer un univers une fois qu'ils se seraient accaparés les personnages qui leur ressemblent. Quelle que soit leur couleur, mais qui leur ressemblent, dans le sens c'est dans une ville, dans une école, ils vivent la même chose qu'eux. Et après, on peut se permettre d'aller dans... Donc finalement, le premier cycle, nous, c'est un peu comme... un peu le début du premier livre du Seigneur des Anneaux. C'est un peu presque le moment où Frodo doit sortir de son village. C'est quelque chose encore assez cool, entre guillemets. Enfin, ils ont plein de menaces, mais c'est encore relativement simple. Et plus ça va, plus ça se complique, et plus ils s'aperçoivent qu'il y a des enjeux qui les dépassent. Donc effectivement, après, une fois qu'un accident a fonctionné, si ça marche vraiment bien, on rattrape plus ou moins le coup, parce que la preuve en est, c'est que si on avait dû être vraiment logique, l'enfant des miroirs, il devrait apparaître que dans les miroirs. Sauf qu'on l'a fait d'une autre manière qui nous a fait rire sur le moment. Puis maintenant, on est obligé d'expliquer à chaque dédicace. Ouais, non, mais en fait, c'était pas fait exprès. Donc c'est là que je dis, c'est un peu du bricolage. Mais j'aime assez les accidents dans une écriture. Si c'est trop contrôlé, je trouve qu'il manque un truc qui nous emmène ailleurs. Et en tant que créateur, si je n'ai pas des accidents au moment où j'écris, c'est pas la peine que j'écris. Voilà. Ouais.
Ben, merci beaucoup. Mais on va surtout remercier Fabien qui, j'espère... Vous avez toutes les explications dont vous aviez besoin, vous n'avez plus qu'à lire la série maintenant et puis aller sur le
pas blog. Cher.
C'est pas cher, c'est pas cher. Merci beaucoup Fabien, merci à vous.
Allez, c'est parfait.
Hop, une affaire qui marche. comment tu vas sortir ça.
Tu dois pour éjecter le bazar.
Je pense qu'il doit être là.